Le corps a une capacité de récupération incroyable. C'est ce que nous prouve l'histoire de Patrick. Patrick est un retraité, ancien alcoolique, désormais coureur d'ultra. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Patrick Rollo. Retraité, ancien alcoolique, il a arrêté de boire il y a 20 ans et désormais coureur d'ultra. Un épisode qui vient boucler notre série sur l'alcool après les épisodes avec Bruno Hobby et Odd Rowe. Je dois cependant vous prévenir que cet épisode avait été enregistré en premier et en novembre dernier. Il avait couru les 100 km de Millau quelques temps avant et préparé le 24 heures de Ploérin en décembre. Patrick nous parle de son parcours, de son alcoolisme, de comment il est tombé dedans, même sans trop s'en rendre compte, comment il s'en est sorti aussi. Il nous parle des séquelles de l'alcool sur son corps et ses organes, et vous allez voir que certains de ses organes ont très bien récupéré, mais que son corps en garde des traces. Et il nous parle aussi de ce qu'il est capable de faire désormais, de ses défis actuels, de ses courses, de pourquoi il fait l'ultra, car c'est la belle leçon de cet épisode. Patrick nous explique comment il en est venu à l'ultra et de ce qu'il recherche dans ce type d'effort, ce qui nous permet d'aborder la dimension mentale de l'effort. Patrick nous parle ainsi de ses abandons et de sa détermination, celle qu'il a eue pour arrêter l'alcool il y a 20 ans et celle qu'il a maintenant dans ses défis. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Patrick, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast cette année encore. Dans ce podcast, nous partageons des conseils de sportifs, coachs, spécialistes qui valorisent une alimentation équilibrée, des produits naturels, des ingrédients bruts à cuisiner, des céréales, des oléagineux. Des ingrédients de base que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, koro.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, koro.fr et utiliser le code APIRON5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Patrick. Allez, c'est parti. Bonjour Patrick.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah ça va, ouais, ça va très bien.
Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet alors, qui rentre dans un sujet, dans une thématique plus large, alcool et ultra. Alors, vu comme ça, on se dit que ça ne fait pas bon ménage, hein, mais de là le dire, de là le penser et de là à en parler vraiment, avec des témoignages de personnes qui connaissent ces deux domaines, l'alcool et l'ultra, c'est d'aller un peu plus loin justement dans la démarche. Alors, ce que je te propose, c'est d'abord te présenter en quelques mots pour qu'on cadre bien un petit peu qui tu es et parce qu'il y a plein de gens peut-être qui connaissent dans le monde de la course, etc.
Alors, donc, Patrick Rollo, j'habite à côté de Reims, je suis retraité, je pratique la course, j'ai repris la course en 2009 exactement. Avant, je la pratiquais aussi depuis 1974 pour exactement. J'ai eu des dents de scie un petit peu, arrêté en 2000, repris en 2009. Voilà à peu près. Et donc, je me suis lancé dans les courses classiques, 10 km, semi, marathon. Et l'ultra m'a intéressé. Je me suis lancé dans les ultras il y a quelques années.
Pourquoi tu t'es lancé dans l'ultra?
Défi perso, parce que je m'apercevais qu'avec l'âge, j'étais plus capable de faire des chronos dans certaines courses. Mais en plus, c'est surtout des défis perso pour pouvoir pousser vraiment le bonhomme au maximum, voir jusqu'à quoi j'étais capable, et puis en fonction des préparations, etc. Donc, mon objectif, c'était surtout un peu ça, quoi. C'était vraiment de faire des challenges qui sortaient un peu de l'ordinaire, au-delà du marathon.
D'accord. Et donc, le bonhomme, tu l'as poussé jusqu'où dans les challenges?
Alors, moi, j'ai fait jusqu'à la course qui est connue, c'est le Grand Raid du Golfe du Morbihan, donc 75 km. J'ai 600 km à mon actif et puis un 24 heures. Là, je me relance dans un 24 heures bientôt, donc en décembre de cette année là. Et puis voilà, au niveau des challenges, et puis j'ai peut-être d'autres projets, mais il faut que je les construise un peu, il faut que je me renseigne un peu plus.
D'accord, tiens, un petit mot, le 24 heures que tu fais cette année, c'est lequel?
C'est celui de Ploérin. On dit Pleurant, donc c'est celui qui est dans 56 entre Auray et Vannes. Donc je l'ai fait, j'ai eu le plaisir de le faire en 2021, ça m'a plu et je veux m'y réaligner pour bien entendu faire mieux.
C'était quoi ta distance sur 24
J'ai
heures?
fait 131 km, 200, 300, donc j'espère faire 140 km.
Ok. Bah écoute, hein, non, parce que moi j'ai fait 24 heures l'an dernier et j'avais reparlé d'en faire un cette année aussi, mais voilà, il y a eu des changements. Et puis en plus d'ailleurs, il était annulé. Hein, c'était ce week-end. Par rapport à la date d'enregistrement, on est un petit peu en décalage hein, dans la diffusion, je le dis. Le 24 heures, c'est un chouette environnement, hein, franchement, faut le dire, pour ceux qui connaissent pas trop le monde de la course. T'en as pensé quoi, toi? Bon, si tu retournes, c'est que ça t'a plu.
Systématiquement, lorsque les gens t'abordent ça, c'est quand tu leur dis que c'est sur une piste, parce que Pleurant, c'est comme ça, c'est une piste qui fait 1 km, hein, une piste, c'est pas vraiment une piste, c'est un terrain, enfin des chemins, ça fait le contour d'un stade, etc. Donc c'est un peu, un tout petit peu sinueux, c'est-à-dire quand on ne tourne pas en rond, quoi. Malgré tout, c'est pas comme un stade. Moi, j'ai super aimé parce que derrière, on revient tout à chaque kilomètre. Donc, on revient à notre stand, on est capable de s'approvisionner, prendre de l'eau, etc. Enfin, bref, tout ce qui peut exister dans ce genre de course. Et puis, on est parti avec des 6 heures, des 12 heures, des 24 heures. Il y a plein d'échanges qui se font. Alors, bien entendu, au fur et à mesure, le groupe diminue pour terminer avec que des 24 heures. Mais pour ceux qui sont lancés sur le 24 heures, mais ce qui est bien, c'est qu'on a créé un petit peu de lien entre chacun. Puis, des fois, on se redouble. Des fois, on se fait doubler, des fois, c'est nous qui doublons. On rencontre des marcheurs ou marcheuses, donc, ou des coureurs et coureuses. Et donc, on a plein d'échanges qui se font et c'est super sympa. Donc, ça encourage, voilà, un peu ce qui fait que j'ai envie de le faire. Et puis, le challenge, le coup de 24 heures, de se dire ben, jusqu'à où je peux pousser la machine, parce que là, bon, j'ai l'impression que. Donc, on fait le nécessaire. Voilà.
Ouais, je le dis, hein, pour ceux qui connaissent pas 24 heures, c'est une belle aventure. Moi, j'avais vu un super bon moment. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, la nuit est un peu longue, hein. Alors, pour l'Oréal, je sais pas à quelle heure ça part le départ.
C'est exactement ça le problème du 24 heures de Pleurant. Alors, bon, c'est Bretagne, hein, bien entendu, mais le problème, c'est le ciel. À cette époque-là, le jour, il est quand même assez court, donc la nuit très longue.
Ouais.
Et j'en remarquais avec les personnes qui couraient, on attendait avec impatience de voir, non pas le soleil, mais au moins le jour, quoi, parce qu'on était en train de tourner tout le temps. Et là, on attendait avec impatience, et c'est fou. C'est qu'on était à plusieurs, en tout cas, à penser à la même chose. J'étais assez surpris parce qu'on pourrait se dire, tiens, vivement qu'on arrive, parce que je crois que ça finissait à midi, hein, je crois, de souvenir. Mais ce n'était pas du tout ça, c'était vraiment le fait de retrouver le jour le plus rapidement possible.
Ouais, c'est vrai, hein. La nuit est longue. Surtout que bah, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Hein. Il y a la fatigue, il y a la durée, etc. Puis, il y a tout un tas de stratégies. Mais on n'est pas là pour parler de 24 heures parce que même si moi c'est un format que j'avais adoré, on est là pour parler d'alcool parce que tu as un parcours aussi avec l'alcool. Tu étais alcoolique.
Oui, tout à fait, ouais.
Et en fait, donc j'essaie de reprendre les années en fait où tu me dis tu as couru dans les années 70, etc. Et à quel moment en fait tu étais alcoolique jusqu'à quelle année?
Après, moi, j'ai arrêté en 2003. J'ai arrêté l'alcool en 2003.
Et tu as commencé à quelle époque?
L'alcool, c'est. En réalité, tu commences pas, c'est un peu, enfin, c'est assez difficile. Hein. Je sais que je suis issu au niveau famille, nos anciens, c'était le verre de vin, c'était un peu l'apéro. Donc voilà, les gamins, ils avaient un peu des fois un petit peu de vin avec de l'eau et du sucre dans le verre. Mais c'est pas ça qui a fait que. Mais derrière, c'est voilà, c'est quand même c'est vicieux, hein, l'alcool. Donc et puis en fonction des parcours de vie. Tu rencontres d'autres personnes, il y a des choses que voilà, tu vas trinquer un peu plus que des fois, et puis après tu rentres dans ce qu'on appelle nous le cercle vicieux, et derrière tout doucement, bah, ça devient une habitude, et donc ça devient régulier, ça devient une habitude, ça devient après quotidien, et avec même et avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. La trame, elle est quasi identique pour tous les alcooliques, je peux le dire. Donc, la trame, hein, je parle. Après, comment c'est bien, ça, c'est autre chose, mais la trame, elle est quasi identique, le cercle vicieux, on connaît bien. Voilà, qu'on en arrive à cacher de l'alcool, etc., pour pouvoir boire en cachette, ça commence à devenir méchant, méchant, et j'en étais arrivé à ce stade-là.
Ouais. Et l'autre jour, j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait un collègue qui était alcoolique, il s'en était même pas rendu compte. Ça fait des années qu'il travaillait avec lui, il s'en était pas rendu compte.
Tout à fait, c'est que moi, professionnellement, j'arrivais jamais dans des états lamentables à mon travail, puisque moi je faisais les équipes, je travaillais en 2-8, hein, même la nuit, je m'arrangeais à être, j'étais toujours bien, j'étais pas dans un état.
Alcoolique, tu t'es
Oui.
arrêté. Comment ça, sur une
Oui.
décision? Comment tu
Une
décides ça
décision
en fait?
personnelle, parce que je voyais que moi je me dégradais personnellement, bien entendu, intellectuellement et puis bien entendu physiquement, enfin il y avait tout un tas d'éléments. Puis mes proches, quand même, on a quand même des comportements lorsqu'on est sous l'emprise de. Lorsqu'on est bien chargé, on n'a quand même pas. Voilà, au niveau des proches, ben, ça fait beaucoup de mal. Hein. Et souvent, on parle d'alcoolique, on parle de la personne qui arrête, etc. Mais il faut penser aussi à tous ceux qui sont autour de nous. Et donc, voilà, moi j'avais 4 enfants. J'ai 4 enfants. Donc, et mon dernier est né en 2003, en mars 2003. Alors, ce n'est pas forcément lui qui a déclenché mon dernier, mais c'est tout simplement, moi j'avais pris conscience où j'en étais et qu'il me fallait à tout prix arriver à arrêter cet engrenage-là qui, je savais, allait faire en sorte que j'allais tout perdre, quoi. Puisque c'est ça, malheureusement, le chemin d'un alcoolique, c'est qu'il va tout perdre.
Donc ça fait 20 ans que tu t'es arrêté.
Tout à fait, ça fait 20 ans, ouais. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté, que j'ai pas retouché une goutte d'alcool, hein. Pas du tout.
Est-ce que enfin, tu dis c'est un engrenage, il n'y a pas de début vraiment et tout, mais tu disais, bon, dans ta jeunesse, tu as fait du sport. Tu disais dans les années 70, tu as fait du sport, etc.
J'étais dans les paras, donc
Ouais.
physiquement on était obligé quand même, voilà. Obligé, mais ça m'a pas, je dis obligé, mais ça m'a plu, hein. Attention, j'étais dans un 9e régiment de chasseurs parachutistes qui a été dissous depuis, mais donc j'ai fait quand même beaucoup de courses, etc. Il y avait beaucoup de physique, quoi.
Ouais. Mais tu buvais à ce moment-là?
Oui, bah, on trinquait, quoi. Comme
Ouais.
beaucoup, hein. Lorsque moi, à 16 ans, j'allais dans les balles, à ce moment-là, c'était les balles, hein. C'était la bière, on n'avait pas des alcools forts, c'était trop cher pour nous à ce moment-là, hein. Faut le reconnaître aussi, hein. Donc, voilà, c'était de la bière, c'était ce genre de truc, du vin blanc, et voilà. C'était souvent comme ça. Et puis, après, bah, il y a le monde professionnel, hein. Moi, je suis rentré un peu dans le bâtiment, donc. Je ne veux pas dire que tous ceux qui sont le bâtiment, ils boivent, mais à ce moment-là, au casse-croûte, c'était quand même le verre de vin qui accompagnait le sandwich et autres. Et puis, la vie à côté, hein, les amis, les copains, la teuf, et puis le quotidien avec l'alcool, quoi. On boit une fois de temps en temps, et puis après, on boit un petit peu plus, et puis après, on boit tous les jours, et puis on augmente les doses d'alcool. Le cheminement est quasi identique, hein.
Ouais. Si on revient sur le sport, parce que tu disais tu étais para, donc tu avais une vie sportive quand même à ce moment-là.
Oui, ouais, tout à fait.
Tu buvais, l'alcool t'empêchait pas de faire ton sport,
J'ai pas, avec le recul, je pourrais pas, je peux pas le certifier, mais j'ai pas de souvenir en tout cas qui m'ait mis dans la difficulté. Maintenant, avec le recul que j'ai en buvant pas, si admettons je me retrouvais dans une situation où je buvais, etc., je pourrais peut-être faire la différence. Mais je peux pas parce qu'à ce moment-là, les sensations que j'avais, elles ne parlaient pas. Je pouvais pas, voilà, c'était pas un indicateur. Enfin, je pouvais pas juger par rapport à ça. Mais je pense quand même que ça vient pas, que ça doit quand même venir quand même enrayer les performances, d'après moi.
On en reparlera parce que c'est un sujet qu'on va aborder avec Bruno Obi aussi, notamment parce que grand amateur de vin, et de dire bah, comment on peut concilier, parce que c'est une vraie question, parce qu'il y a plein de gens, et puis l'autre jour, j'étais une course hier, les gens disaient bon, on va aller boire une bière après la course, il y a la fameuse bière de récup, il y a de récup ou pas de récup, on n'en sait rien de toute façon, il y a tout un tas de tradition autour de ça, etc.
Ouais.
Tout. Mais c'est vrai que j'entendais dire la discussion, moi, sur une course, on dit, ah, tiens, on va boire un coup, on va boire une bière après, on va boire notre truc, etc. Moi, je vois des jeunes aussi, des fois, quand j'étais au club, qui racontaient leur jeudi soir, et j'étais étudiant, donc je me rappelle bien comment c'était, qui, eux, courent comme des lapins encore, mais qui arrivent à enchaîner. Et puis, même, moi, j'ai vu dans le sport de haut niveau, tu sais, j'ai vu des équipes de foot où tu as des joueurs qui boivent, etc., ou quelques jours avant, disaient, on ne boit pas et tout. Mais c'est vrai que il y a ce côté tradition quand même qui est très installé. Enfin, on a l'impression qu'il y a une culture, il faut absolument boire, quoi.
C'est historique. C'est historique. Une forme de récupération par le coup de la bière, puisqu'on va éliminer certaines toxines, mais ça en amène d'autres. Mais après, donc, pour revenir sur le fait, est-ce que l'alcool va perturber des performances, etc., il est difficile de le savoir comme ça. Peut-être que le jeune qui, le jeudi, fait la teuf, et puis que le vendredi ou le week-end qui suit, ou même va faire une compétition, on peut pas savoir l'impact, etc. Il faudra avoir vraiment l'avis de médecin avec vraiment des contrôles et puis des prises de sang, enfin tout un tas d'éléments qui pourraient permettre en tout cas de justifier ou de démontrer qu'il y a justement un impact fort ou pas. Parce que là, bon, hein, c'est comme, comment on pourrait expliquer ça, c'est de prendre quelque chose lorsqu'on va courir, on dit tiens, je vais prendre telle chose. Est-ce que si je ne l'avais pas pris, ça serait mieux? Si je l'ai pris, c'est mieux. Donc, c'est toujours difficile de savoir ça. Voilà.
Mais avec le. Alors, il y a l'âge qui joue aussi, parce que maintenant, on dit il y a 20 ans et tout, avec le recul, c'est difficile parce que notre corps évolue,
Ouais, je suis pas pour moi.
tout évolue, tout change, hein. Mais tu te dis, je ne sais pas comment trop dire ça, mais finalement, est-ce que tes performances, en tout cas, ta santé, ton bien-être, etc., tu vois, ta forme physique globale, tu vois, vraiment sur cet aspect forme physique, tu as l'impression que. À quel point ça pouvait la dégrader, tu vois, l'alcool?
Ben moi, je dirais plus l'inverse. Je dirais que depuis que je me suis mis à arrêter, que j'ai pris la décision d'arrêter et que j'ai arrêté, très sincèrement, physiquement, je m'y suis retrouvé. Mais
Ouais.
faut se rappeler quand même, moi, j'ai eu un engrenage. Ça faisait, allez, on va dire, une petite trentaine d'années, plus que ça, peut-être, que je buvais. Donc, il y avait un système d'engrenage qui a été fait là-dessus. Et donc, une dégradation, on sait qu'il y a des impacts qui se font. Mais le fait d'avoir arrêté, derrière, m'a fait. Je me suis mieux senti. Il y a aussi le fait dans les réflexions, dans la pensée, dans les agissements, dans les réflexes. Je me suis aperçu de plein de petites choses du quotidien qui faisaient, par exemple, je faisais tomber quelque chose. Ben, là, j'étais à même de le rattraper qu'avant, il tombait, bling, je mettais du temps. On voyait bien quand même une dégradation physique hein, qui est en train de s'installer tout doucement, etc. Et puis, bien entendu, sur le corps, hein, moi, j'ai décidé d'arrêter, il y a eu des contrôles qui ont été faits, prise de sang, examen, etc. Parce que je me suis fait un peu suivre. Bien que ce n'était pas forcément, mais c'était. Je me suis fait un peu suivre. Donc, il y a eu des examens qui ont été faits, qui ont révélé certaines choses. Un foie qui était un peu abîmé, le pancréas, on pense qu'il est encore un petit peu abîmé parce que le foie, même s'il ne se régénère pas complètement, et là-dessus, il y a un discours, il ne se régénère pas complètement, mais il s'est régénéré pas mal. Par contre, le pancréas, il a morflé. Et puis, il y avait aussi tout ce qui était sanguin, le sucre, qui est quand même une catastrophe au niveau de l'alcool, qui vient faire des dégâts quand même assez importants, diabète, graisse, etc.
Donc ça, t'as vu un suivi quand tu as arrêté, et au fur et à mesure, tu as vu là les améliorations sur tous ces aspects-là. Tu dis le foie se régénère,
Oui,
etc.
c'est indiscutable, c'est indiscutable. Déjà, physiquement, bon. Alors moi j'ai arrêté en 2003. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas la course à pied qui m'a fait arrêter. C'est que c'est simplement une conscience de moi sur perso, etc. Hein, d'accord? Donc ma famille, etc. Et puis moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait de la plongée sous-marine pendant très longtemps. Hein, j'ai fait de la plongée sous-marine de 88, de souvenir, je crois, dans les années 2010. Et donc en plongée, etc., on avait aussi l'aspect convivial qui était quand même assez des fois juste après les plongées qui était quand même chaud. Donc j'ai toujours fait une activité. Et donc lorsque j'ai décidé d'arrêter, ben, je me suis aperçu que j'étais plus lucide dans certaines choses. Il y avait des réactions qui étaient quand même vachement différentes et une forme physique qui revenait tout doucement. Alors il faut l'entretenir, on le sait tous, toutes et tous qu'il faut quand même faire des activités physiques pour pouvoir être bien. Ça ne suffit pas de faire, de faire des abstinences complètes, mais il faut aussi quand même entretenir la machine. Et donc, la course à pied a été un élément moteur. Mais quand je me suis replongé en 2000, en 2009, j'ai vraiment cherché à tout prix à faire vraiment au maximum. J'ai arrêté la plongée, donc juste un petit peu après, mais c'est pas lié. J'ai arrêté la plongée parce que voilà, j'avais fait le tour de mon côté. J'ai 1300 plongées à mon actif et j'ai voulu vraiment dans la course à pied, je me suis lancé à fond. Comme parce que je suis assez, voilà, je suis peut-être de l'art, mental un peu costaud et je pense en tout cas, hein, c'est ce qu'on me dit. La preuve en est, c'est que j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de volonté. Et moi, je pense que l'ultra aussi, hein, ça reflète aussi le mental et la volonté qu'on a besoin pour pouvoir des fois terminer. N'empêche que je me suis déjà ramassé en course à pied, hein, le mental, des fois, il m'a lâché.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est que tu parles de mental, c'est vrai que on le dit hein, sur l'ultra, surtout c'est des courses aussi longues qui durent des. Tu pars sur. Parce que là, on a parlé du 24 heures. Finalement, on tourne en boucle. Mais sur d'autres courses où tu peux être dans la montagne, dans la campagne, etc., en pleine nuit.
Le Grand
J'ai eu
Raid,
des
par
invités.
exemple.
Ouais, j'ai eu
Le
des
Grand
invités de
Raid du Golfe
podcast
du Lion. Oui.
qui racontent l'UTMB en pleine nuit, qui s'entendent, ils ne savent pas s'il a entendu le loup.
Les délires qu'on peut avoir suite à la fatigue, le cumul, ouais, bien entendu, que j'ai
Ouais.
vécu, connu, moi, oui.
Et donc, c'est vrai qu'il y a une question de mental qui est importante. Hein. On dit que dans ce qu'on est capable de faire, peut-être qu'on pensait même pas être capable de le faire pendant un certain temps,
Bon.
quoi.
Oui, tout à fait. Et c'est peut-être ça aussi, moi, qui m'a tenté, c'est de me dire, de se pousser un peu. Alors, pousser, mais intelligemment. Hein, je veux dire, c'est pas faire n'importe quoi. C'est vraiment, je me suis fait, je me suis, j'ai, je suis encadré. C'est-à-dire que j'ai un coach. Tout à l'heure, tu parlais de Bruno Huby, donc, entre autres. J'ai aussi, au niveau diététique, je me fais suivre un petit peu, qui fait que, voilà, j'essaie de me donner tous les atouts, en tout cas, en main. On sait très bien que les étoiles. L'alignement des étoiles au moment de l'épreuve, on sait qu'elles sont pas forcément bien alignées. Il peut des fois manquer un élément qu'on n'a pas pris en compte, qu'on n'a pas mesuré, ou malheureusement, c'est voilà, c'est ainsi. Et qui fait que derrière, hein, on va pas y arriver, on va échouer, ou que ça va être plus compliqué, plus difficile que l'autre. Hein. Je viens de faire les 100 km de Millau, donc au mois de septembre de cette année, et j'ai pas fait le chrono escompté. Voilà, je suis content parce que je finis pas dans le rouge, mais une déception. Mais bon, on est tous un peu comme ça. On a toujours des challenges lorsqu'on fait ce genre de course. Même si c'était la cinquième fois, moi je cherchais quand même à chercher quand même quelque chose. Et puis mince, manque de chance, j'ai pas réussi à faire le chrono que je voulais faire. Bon, après voilà. Après, on en analyse avec mon coach, on a analysé et puis on en tire après les leçons qu'il faut pour pouvoir être mieux la prochaine fois.
Ouais, j'en connais d'autres qui ont été déçus cette année par les 5 km de Millau, par leur performance. C'était dur cette année en plus avec la chaleur et tout, hein.
Oui, alors Millau là cette année, ça a été quand même assez chaud. On a claqué du 29 degrés, je crois de souvenir. Moi, très sincèrement, quatrième participation. Alors, je suis toujours en train d'hésiter. Ouais, c'est la quatrième participation, pardon. C'est la première fois que je vois les pompiers en aller-retour comme ça. J'ai vu beaucoup de personnes très mal. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était quand même dur, dur, dur. Et puis même moi, j'ai bien vu en consommation d'eau, même si je suis assez, j'essaye de me réhydrater comme il faut. On sait très bien le problème que ça peut poser. Alors de l'eau, hein, bien entendu. Et c'est moi, je prends des boissons d'effort, mais n'empêche, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en grosse difficulté par rapport à la chaleur qu'on a pu subir.
Tu dis quand même la course, tu t'es pas mis, t'as pas arrêté l'alcool pour mettre à la course, mais à quel point la course, est-ce que la course t'aide, t'a aidé à un moment donné par rapport à l'alcool, par rapport à ton alcoolisme, etc. ou
Alors, ça, on m'en a déjà parlé. Je dis, je bois plus.
ouais.
Donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de boire. Je pense quand même que ça doit venir quand même me donner un bon coup de main, mais j'ai, comment je pourrais expliquer ça? J'ai pas la tentation. C'est-à-dire que j'ai pas de tentation et j'ai pas envie, etc. Très sincèrement, lorsque j'ai fini le cursus, un peu de suivi. On m'avait dit que je pourrais très bien éventuellement boire un verre de temps en temps, etc. Moi, pour X raisons, j'ai jamais repris un verre parce que voilà, c'est une décision perso. Alors, est-ce que c'est la peur de vouloir? Mais j'ai dit non, c'est simplement j'ai pris la décision de ne plus boire du tout une seule goutte d'alcool à partir de ce moment-là. J'ai gagné ce combat-là. Et bah, lorsqu'on fait un ultra, on gagne aussi. C'est un combat aussi, hein, quelquefois. Hein,
Ouais.
le mental, quand même, il faut qu'on le travaille. Et puis, bah, et puis la volonté, le mental, alors est-ce qu'on peut distinguer les deux? Est-ce que c'est la même chose? Après, là, c'est des sujets de conversation philosophique.
Oui.
Entre le mental et la volonté, c'est difficile de faire le discernement.
Il y a un grand débat, effectivement, sur la volonté, sur la limite de la volonté, du mental.
Souvent, on dit que ceux qui font des courses comme nous, moi je cours 5 fois la semaine, etc., dans mes plans, on me dit, ouais, c'est une addiction, c'est un besoin, on sait que les hormones, ça nous fait travailler, derrière, on a une sensation de bien-être, et derrière, on est en manque, on se trouve en manque. Alors, très sincèrement, je n'ai pas ce manque, en tout cas, que je peux entendre des fois de certains ou certaines. Moi, j'ai pas. Il m'arrive des fois de stopper, après, surtout fin d'année, je fais un break. Et j'ai pas, et puis là, malheureusement, j'ai eu des blessures assez méchantes. Hein. J'ai arrêté une fois 15 mois, une fois 6 mois, 5 mois. Donc, tendon à péter. Donc, voilà. Mais j'ai pas eu. C'est vrai qu'on a encore envie de recourir. On a hâte de recourir, et c'est sûr. Mais le manque tel qu'on pourrait le ressentir, comme j'ai pu le sentir avec l'alcool, non. L'alcool,
Ouais.
oui, j'étais en manque. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que j'ai eu des périodes comme ça, ouais, où j'étais vraiment en manque, il me fallait vraiment quelque chose à un moment donné. Mais autant dans la course à pied, de recourir, oui, mais pas avec des mêmes forces. Je pense que c'est pas les mêmes. Je pense qu'au niveau cerveau, c'est pas les mêmes filières. On n'est pas sur les mêmes choses entre le besoin d'alcool et puis le besoin de course à pied. On n'est pas sur les mêmes choses. L'alcool te rend dans un état second, que la course à pied, elle te rend pas dans un état second. Elle te rend vraiment bien, il y a une forme de bien-être qui est complètement différente de celui ce que peut procurer l'alcool. Et cette espèce de. Enfin, oui, c'est une ivresse qu'on a provoquée par l'alcool.
Ouais.
Pour moi, c'est différent.
Ouais, puis t'as pas de gueule de bois après une sortie longue.
Ouais. Bah, c'est peut-être les jambes, on va dire ça, non? C'est peut-être un peu d'autres éléments de notre corps qui se manifestent en disant oh, bah, dis donc, là, hier, tu as fait fort. Après, tout dépend des entraînements qu'on a pu avoir. Quelquefois, moi, j'étais surpris, 100 km de mio, j'ai rien eu. 2 jours après, moi, j'étais impeccable. Je n'ai même pas eu de courbature comme quoi, des fois, on est surpris. Hein. J'ai fait aussi Marvejols, pareil, j'ai sorti Marvejols, rien du tout le lendemain. Bon, après. Mais c'est vrai que l'alcool, systématiquement, la tête de travers, hein, je vais être poli, bien entendu, mais c'était la tête de travers le lendemain, quoi. Puis ça repart dès que voilà, ça part bien, et puis on attend impatience de le verre qui va nous délivrer un peu de ce manque, de ce mal-être, et puis on reprend, on recommence, etc. Pensant que moi j'avais besoin d'alcool pour dormir, par exemple.
Pour dormir.
Ouais. Après du
Pourtant, on dit
boulot,
que.
je buvais, il fallait que je boive un peu pour pouvoir boire, pour pouvoir dormir. Ouais, tout à fait.
D'accord, ouais. Parce qu'on dit que justement, l'alcool empêche de dormir bien, qu'on ne dort pas bien, qu'on n'arrive pas à se
C'est
reposer, etc.
sûr, ça t'assomme. Je pense que tous ceux qui ont. Enfin, ça arrivait à beaucoup de monde. Tant mieux, hein, attention, hein, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui des fois, bah, ça fait dormir, on le voit bien.
Est-ce que ça fait bien dormir ça par contre? Et là tu peux
Alors
pas
là,
comparer.
non.
C'est-à-dire que
Non,
est-ce
je
que tes
pense
nuits sont
pas.
meilleures maintenant?
Ouais, non, c'est sûr que les sommeils sont complètement différents. Ils ne sont pas provoqués. C'est vraiment là, les sommeils que je peux avoir maintenant, ce n'est pas l'alcool qui me provoque. C'est vraiment la fatigue, c'est ce corps. Donc, c'est complètement différent, quoi.
T'as jamais été retenté sur, enfin même aux arrivées de course et tout, il y a pas de gens qui te proposent un coup à boire et tout.
Alors, la période qui a été la plus difficile, c'est au niveau des amis, de la famille, etc. Lorsque j'ai arrêté, lorsqu'il faut dire, maintenant je bois pas, voilà, j'avais quand même un passé qui faisait qu'ils savaient que j'allais prendre un whisky et boire un verre de vin. Là, plus rien du jour au lendemain, un peu surprenant. Donc, à un moment donné, il fallait aborder le sujet en leur disant qu'à partir de maintenant, je buvais plus d'alcool et en même temps leur dire que j'étais alcoolique. Alors certains font les gros yeux, certains font les gros yeux, mais ils le savaient, et puis d'autres qui te disent oui, on l'avait vu. Voilà.
Ouais. Et donc il l'avait vu, mais finalement, enfin, c'est vrai parce que quand je reviens sur cet exemple de dire, ben, on se rend pas compte des gens, etc. Enfin, maintenant après le recul, l'alcoolisme, ça commence à combien de, on peut se chiffrer à combien de verres par jour
Ouais,
ou...
après, c'est les fameux chiffres que sont donnés alors, je sais pas si c'est l'OMS, mais je crois que c'est le truc de la santé, qui dit que c'est 3 verres d'alcool jour avec une journée de coupure dans la semaine. Enfin, il y a un truc comme ça. À partir du moment pour moi où l'alcool devient quotidien, pour moi, ça y est, on est en train de rentrer dans un cercle qui n'est pas bon. Après, je dis pas que c'est perdu, hein, attention, hein, mais je dis que tout simplement, là, faut être attentif parce que là, on risque d'être dans un engrenage. Alors moi, j'ai fait des formations, hein, je vais pas
Ouais.
expliquer comment et pourquoi, c'est pas le but. Hein. Et justement, j'ai expliqué comment ça se passait, l'alcool tous les jours, etc. Et donc, derrière, comment on se retrouvait dans un espèce de vice, et puis ce besoin d'alcool systématique. Donc voilà. Donc voilà.
Ouais, parce que moi, tu vois, cette dose-là d'alcool, quand tu, moi, j'ai dans de la famille, quand je regarde dans l'entourage et tout. Ils y sont à ces doses-là, en fait. Mais
Ah
dire
oui, non,
jamais qu'ils sont
mais
alcooliques.
après, les gens, malheureusement, ils vont nier, enfin, comment, je sais plus le terme exact qu'on emploie dans ces moments-là, mais il y a cette espèce de rejet, enfin, de ne pas vouloir admettre que, malgré qu'ils le savent. Et ils le savent, hein. Je dis que l'alcoolique, il ne sait pas qu'il est alcoolique, il le sait. Donc voilà. Il sait qu'il est dans un engrenage. Après, c'est voilà, c'est le déni. C'est le déni de boire. Et il y en a qui. Lorsque je témoignais, puis qu'après j'échangeais un peu avec les groupes dans les formations que j'ai pu faire, bah, systématiquement, les gens viennent te voir. Ouais, tu vois, moi je bois ça, je bois ça, je fais ça, je fais ça. Ben, j'ai dit, oui, mais. Derrière, quand ça devient du quotidien, ça devient. Alors, quotidien, pas forcément, hein, parce que maintenant, les alcooliques, ils les reconnaissent dans les jeunes qui se. Je vais être un peu péjoratif, ils pètent la rue juste le week-end, mais qui boivent des choses, mais des quantités faramineuses, mais en une fois ou deux fois sur le week-end. Bah, maintenant, ça y est, on les considère comme alcooliques, hein, puisqu'ils attendent les bonnes choses, le bon vin, les bons alcools, etc. Mais il faut que ça reste. Comment que ça reste vraiment temporaire, que ça à un moment donné, pour etc. Après, moi, il peut arriver autour de soi et des gens, bah, voilà, ils ont envie de. Que ça peut arriver des fois que ça dérive, et c'est pas pour ça qu'on est dans un engrenage d'alcoolique. Hein. Aussi, hein. Attention, hein, moi, je mets bien le haut là, hein. C'est pas parce qu'on boit de temps en temps qu'on fait la teuf et puis qu'on va un peu plus loin que le lendemain à la gueule de bois, que derrière, on est alcoolique. Ce qui
Ouais,
compte, c'est de
et,
prendre. Ce qui
parler de, du milieu dans lequel tu travailles, milieu travail dans lequel tu étais. Mais enfin, moi, j'habite dans une ville qui est à Clermont-Ferrand. C'était comme ça se faisait comme ça, etc. Il y a une évolution quand même là-dessus. Mais c'est vrai que c'était, il y avait un vrai réflexe. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, il y avait des bars, juste en face de l'usine. Je pense même que c'était peut-être la chose la moins chère qu'il y avait à boire en plus.
Ouais, moi j'ai des souvenirs d'entreprise. Hein. Moi j'ai travaillé en Mayenne, à Mayenne. On avait un distributeur et moi je finissais à 5 h du matin, je travaillais de nuit. À 5 h du matin, on allait boire une bière, les bières qui étaient au distributeur au sein de l'entreprise. C'était tout à fait normal. C'était comme ça, quoi. C'était dans les yeux. C'est comme tu le dis. À un moment donné, le législateur, il a déjà mis en place des choses en disant, ben voilà, faut qu'on arrête toute consommation d'alcool au sein des entreprises, avec tout ce que cela a impliqué, avec les difficultés qu'on a pu avoir dans les entreprises, parce que moi, je l'ai connu, ça. Donc, voilà. Et comme tu le dis, c'était l'aspect encore convivial. On en reste toujours pareil. Convivial, la fin de journée, une journée fatigante. On a envie de se détendre. On va boire un coup avec les copains et les copines. Et puis, en sortant du boulot, ouais, tout à fait, ouais.
Et puis comme on disait, c'est très culturel, hein. Bah, en plus, il y a des gros lobbies, on est le pays du vin, soi-disant. T'es à
Oui.
Reims, hein, donc il y a le champagne.
Oui. Oui, bien entendu, j'ai travaillé en plus dans le champagne, donc
Ouais.
un moment.
Ouais, donc là, on le sait, hein, parce qu'on le voit un petit peu, puis on voit aussi les... Tu parlais des étudiants. Moi, j'ai fait des campagnes BDE, on organisait des soirées, on était sponsorisés par les grandes marques d'alcool. Qui livrait à domicile, qui nous livrait des cartons complets pour abreuver les étudiants, etc. Donc, il y a vraiment toute une économie aussi autour du vin, etc. On parle aussi de cet aspect-là. Tout à l'heure, je courais dans la rue, moi, j'ai le nombre de pubs pour de l'alcool que tu vois, hein, ou dans les magazines, etc. Il y en a partout, en fait. On est entouré par ça.
Ah, tout à fait, ouais. C'est même assez. Enfin, y a eu quand même maintenant, et à chaque fois, chaque pub, maintenant, il y a quelque chose. Attention à l'abus d'alcool, machin. Alors, je ne sais pas si ça impacte les gens, je ne peux pas dire. Moi, je bois plus, donc c'est pas ça qui me. Mais je pense que. Le truc, c'est que c'est. Alors, je ne sais pas si dans d'autres pays c'est pareil, mais nous, là, comme tu le dis, on a quand même on est quand même dans le pays des très bons vins, et c'est difficile de. Ouais, enfin, c'est difficile. Ce qui compte, c'est surtout ces abus qui sont toujours dangereux. Donc, le fait de boire de temps en temps, c'est pas là le problème. C'est comme tout. C'est comme tout. C'est comme de faire un bon repas, hein, manger plein de choses qu'on ne devrait pas trop, en tout cas. Et puis derrière, mais si tant que c'est pas dans le quotidien, tant que c'est pas, tant que ça vient pas à nous détruire parce que quand on a abusé de trop, voilà.
Pour revenir sur les conséquences, tout à l'heure tu parlais du pancréas, tu disais le foie se régénère et tout. Le pancréas, quand c'est. Enfin, en fait, tu as des traces encore de cet alcoolisme, je veux dire, en toi, sur ton
Ouais,
corps,
moi,
sur ta physique?
j'en ai pas la certitude, mais je pense que quand même, parce que médicalement, en tout cas, dans les examens qu'il y a pu y avoir, prise de sang, on a regardé un petit peu ça, parce que moi, malheureusement, je fais un petit peu de diabète, hein, je suis diabétique, mais je suis diabétique très léger, donc je n'ai pas besoin de médicaments, parce qu'à moi de faire un peu attention. Bah, j'utilise un capteur qui me permet de mesurer lorsque je fais les compétitions. Hein, j'ai un capteur. Là, je l'aurais posé un, puisque dimanche, je vais faire une course. Donc, j'en ai posé un hier. Donc, ça dure 14 jours. Et donc, ça me permet vraiment de voir ma courbe glycémique. Si on veut, sur le pancréas, moi, quand il y a un peu de diabète, beaucoup de mal à comprendre pourquoi, parce que coureur, c'est très rare. On pense, et ça, c'est par le biais de ma diète, et je le remercie, on pense que quand même le pancréas a morflé par le biais de l'alcool, et on n'a plus une régulation qui est bonne. Il ne faut pas oublier quand même que l'alcool, on a un sucre qui est masqué, qui est un sucre qui est transformé, hein, qui est assez particulier, c'est pas du sucre tronc, c'est pas du sucre blanc, c'est un sucre qui quand même, voilà. Et le pancréas, il a dû prendre une claque et au niveau de l'insuline qu'il doit donner, on pense qu'il dysfonctionne un peu. On le voit dans les traces, un peu lorsque je fais des courses et puis que je fais des efforts, on voit très bien la courbe glycémique. On voit quand je reprends des aliments pour pouvoir me nourrir, etc., boisson d'effort ou autre. Hein. Et on voit qu'il y a quand même des sursauts de pancréas qui, en tout cas, pensent que l'alcool a rendu mon pancréas complètement fainéant et qu'il a un peu gangréné. Et voilà. Alors, une prise de sang, moi, j'ai eu des prises de sang pour vérifier ça, mais je pense qu'il faut qu'on approfondisse un peu pour pouvoir voir si vraiment le pancréas, il fait bien son rôle. Bon, moi, j'essaie. Heureusement, et c'est la course à pied qui m'empêche, pas qui m'empêche. Qui me garantissent en tout cas que je n'ai pas besoin de médicaments pour le diabète pour le moment.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, la course permet de réguler hein, par l'effort physique, hein, tout simplement,
Ouais.
la gestion des
Tout à fait.
glucidiques.
C'est ça, exactement. Et mon docteur me l'a spécifié. Il m'a dit, dès que vous arrêtez la course à pied, il faudra qu'on fasse des examens pour voir ce que ça donne, quoi, pour voir si ça bouge beaucoup ou pas.
D'accord. Et c'est intéressant, tu disais, donc tu as un capteur sur les. Tu l'utilises que pour les compétitions, le capteur?
Alors, en vérité, suite au problème de sang, etc., que j'ai pu avoir, moi, ça m'a. Je te le dis, enfin, je le dis, mais je suis contre les médocs, pour plein de raisons. Je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas le cas. Donc, je suis vraiment contre, contre, contre. Et donc, quand j'ai appris que j'avais un peu de diabète, j'ai dit, bon, il va falloir faire quelque chose. Je suis juste au trait. Hein. Et donc, ce que j'ai fait, j'en ai parlé à ma diététicienne qui, justement, sait que j'avais un passé alcoolique. Et donc, elle m'a dit, bah, on va peut-être utiliser ce fameux capteur. Ça vous permettra de voir. Donc, j'utilise depuis janvier. Alors, j'ai utilisé pendant assez longtemps. Et puis là, maintenant, j'utilise vraiment à l'approche de compétition. Donc, je le mets une semaine avant. Parce que, bon, j'ai des petites défaillances juste après course qu'on voudrait savoir d'où ça vient.
D'accord.
Le capteur, il vient voir vérifier certaines choses. et regarder un peu ce que ça peut de, ce que, de regarder un peu ce que ça donne au niveau taux de au niveau glycémie, au niveau sang.
C'est intéressant, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des capteurs qui n'ont pas écouté les autres épisodes, je renverrai. Il y a des épisodes avec Bruno Obi, avec Aude Bazin, on avait parlé de ces capteurs-là justement. Et elle disait sur l'apprentissage, c'est intéressant de les avoir sur une période un peu longue au départ, enfin, pour avoir un apprentissage, pour comprendre comment on fonctionne.
Notre
Hein, c'est ce
corps,
que tu as fait toi en début d'année, hein, d'avoir ce fonctionnement-là.
c'est Aude, hein.
Ouais. Et d'avoir ce fonctionnement-là pour savoir justement ben, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui se passe quand tu manges, qu'est-ce qui se passe quand tu te reposes, quand tu cours, quand tu fais tout ça, pour ensuite pouvoir le. Bah, adapter finalement, ça t'a fait changer des choses dans ton alimentation ou dans ton
Oui,
entraînement?
alors après, moi je me suis appuyé aussi sur une lecture, hein, donc un bouquin, Jessie, je sais plus son nom de famille, je vais m'amuser de l'écorcher, mais bon, bref,
Une
qu'elle
chose
sort
paie?
quand?
Une chose paie?
C'est ça. Et
Voilà.
donc, mon livre est super bien, super intéressant. Ça rentrait vraiment dans mon combat. C'est pas un combat, mais dans essayer de trouver un peu des solutions pour pouvoir baisser mon taux de mon taux de diabète. Et on s'est aperçu que ben, ces conseils, ce qui était écrit, venaient rejoindre ce que pouvait me dire ma diététicienne. Et en même temps, je l'ai vu sur les capteurs. Hein. Ça, c'est indéniable. À partir du moment où on change sa forme d'alimentation et dans le sens de l'alimentation, c'est-à-dire que voilà, il y a certaines choses à faire avant, etc., fait que ça m'a amené, ma courbe est beaucoup plus lisse, elle est plus stable. Alors, de temps en temps, je dis pas, je suis un peu gourmand, donc quelquefois, je dépasse outrageusement les limites du capteur. Mais ouais, ça arrive que de temps en temps. C'est comme pas non plus, c'est ce que pareil pour l'alcool, faut pas non plus tomber dans les excès. Voilà. Donc ça vient du raisonnable, mais attentif. Alors, quand je suis à un sujet sensible, je pense que l'alcool a malheureusement a détruit pas mal de choses chez moi par rapport à ça. Ouais.
Donc, le livre de Justine Chospé dont on parle, c'est Faites votre révolution glucose. Et c'est Glucose Goddess hein, sur Instagram qui est très connu, qui passe maintenant à la radio, etc. Qui était un peu caricaturé sur certaines choses parce que bon, elle parle beaucoup du vinaigre. Hein, mais par contre, quelque chose aussi dont elle parle beaucoup. Donc, il faut se rendre heureux, c'est l'ordre des aliments dans lequel on le prend dans les
C'est
repas.
ça que je voulais dire.
Ouais, donc c'est ça, je pense. T'as modifié la composition de tes repas, l'ordre des repas
Ouais,
dans ce cas-là?
alors, à la maison, on est maintenant, on en tape toujours par une crudité, donc c'est souvent de la salade, etc. Le coup du verre de vinaigre, moi, j'utilise souvent. Et je vois, ça a lissé, hein, il n'y a pas photo. Et puis derrière, après, dans ce que je vais manger, j'essaye de faire en sorte de respecter un ordre particulier pour justement éviter les pics, puisqu'on sait très bien que le sucre en fin de repas, il va être un peu temporisé, si je puis dire, tamponné, ouais, par les aliments qu'on vient de manger juste avant. Donc il faut, dans la mesure du possible, essayer de faire comme ça. Prenez un croissant ou un truc comme ça en plein milieu de la matinée, ça va faire un tout. Moi, je le vois, hein. Là, j'ai un capteur. Ce matin, je prends l'exemple, hein.
Ouais.
J'ai pris un croissant, ça fait un pic, mais alors, tout de suite, quoi, dans l'heure qui a suivi, c'est monté en flèche. Pourtant, c'est qu'un croissant, on pourrait dire, bon, c'est rien. Alors, mais non, 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 ça a fait tout de suite quelque chose. Par contre, j'avais tamponné par autre chose avant, de prendre un petit peu, soit un petit peu de jambon, un truc comme ça, un petit yaourt, etc. Ça aurait tamponné, la courbe aurait été moins forte. Mais c'est sûr.
Ouais, mais c'est intéressant hein, cette connaissance hein,
Oui.
ce qu'apporte. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs invités diabétiques avec qui on en a parlé justement, qui ont une connaissance de leur alimentation, de l'impact que ça, alors que la plupart des gens ne regardent jamais. Hein, quand on n'a pas de problème comme ça, on ne regarde jamais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, pourquoi on parle de ça? Parce que c'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte, quand on ne regarde pas, la quantité de sucre qu'il y a dans de l'alcool. Et alors, le
Ouais,
truc, il y a des alcools en plus. Je pense aux petits jaunes, etc. On va pas donner les marques, mais alors, on
oui.
a des pourcentages,
Le
c'est
whisky
au-dessus
et
des
tout ça.
sodas, mais c'est largement supérieur à des sodas. Hein.
Et puis en plus de ça, là, il y a une particularité, je pense qu'une diététicienne comme Aude pourrait en parler, c'est que le sucre qui est dedans, il est un peu modifié suite à l'alcool. Donc il a pas la même réaction qu'un sucre blanc. Je prends une cuillère à sucre comme ça et je prends un verre d'alcool, le sucre, il y en a. Si on prenait la même quantité égale avec un pourcentage. Mais l'alcool fait autre chose, quoi. En plus, je crois qu'il est difficilement éliminé par le corps. Enfin, il est plus complexe que du sucre classique. Et il fait plus de dégâts. Et on sait très bien, malheureusement, que les dégâts qui sont provoqués par tout ça, ils ne se font pas à l'instantané. Faut attendre du temps. Il faut malheureusement du temps avant que, malheureusement, on s'en aperçoive.
Tu dis le foie, donc lui il se régénère.
Alors, il se régénère. Alors, bon, on dit qu'il se régénère. Je pense qu'il ne se régénère pas à 100%, de mon point de vue. Hein. Je ne suis pas hépatologue, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui font tout ce qui gère tout ce qui est foie. Mais il va se régénérer un peu, il va revenir à avoir quelque chose de consistant. Moi, pour le mien, les radios qu'il avait pu avoir et puis les examens que j'avais pu faire à ce moment-là disaient qu'il était empâté, un peu graisseux, un peu chargé, etc. Mais la doctoresse qui me suivait, qui était donc spécialiste au niveau alcoolémie, m'avait dit que de toute façon, ça allait passer et que vous allez retrouver un foie quasi normal de quelqu'un, voilà, mais qu'elle allait revenir à quelque chose de normal.
Ouais. Rappelons aussi hein, que la maladie du foie gras, qui est une vraie maladie, hein, fait partie des maladies très répandues, hein, qui se répandent de plus en plus à cause du sucre, etc. Il n'y a pas que l'alcool, il y a la
Oui.
consommation de sucre, de glucides global, etc. Moi, j'ai eu des gens en coaching hein, qui sans boire d'alcool en plus. Franchement, on en buvant très peu, long aussi. Parce que bah, c'est notre alimentation, hein. On a beaucoup parlé dans ces épisodes-là, notamment l'alimentation ultra transformée. On parlait des viennoiseries, mais il y a énormément de sucre un peu partout et tout. Donc c'est vrai que ce genre de choses-là et tout, bah, sur le foie, au bout d'un moment, il n'arrive pas à le gérer. T'as eu d'autres effets sur ton corps, d'autres organes qui auraient pu te toucher ou ton fonctionnement ou t'as le sentiment que l'alcool a pu impacter?
Ouais, je pense. Fréquence cardiaque.
Ouais.
Fréquence cardiaque au repos. Alors, c'est vrai que le fait de courir, derrière, on va entretenir une fréquence cardiaque au repos qui est quand même meilleure, bien entendu. Hein. On sait qu'elle est de l'ordre de 60, 70, on ne va pas chipoter sur les chiffres. Mais moi, je pense que j'étais plus vite à bout de souffle. Le cœur devait être plus au repos, il devait être dans les alentours de 80. Le fait d'arrêter l'alcool, ça a chuté. Hein. Puisque ton sang, étant donné qu'il charrie des doses de sucre d'enfer, il est certainement au niveau hypovolémie, etc. C'est-à-dire qu'au niveau au niveau sanguin, on a une densité qui est légèrement supérieure, qui fait qu'on a une circulation qui est un peu plus difficile du sang. Hein, je suis en train de remettre mon. Et donc, derrière, d'arrêter l'alcool, mon sang redevient plus fluide, circule mieux, etc. Après, bon, il y a le sport. Quand même le reconnaître, le sport, il a quand même un impact d'enfer. Mais je pense que l'alcool dans le sang a fait des dégâts dans le sens où il était plus épais, plus difficile à circuler, un cœur fainéant, les artères, des veines, ça par contre, il faudra faire des examens. Moi, j'ai fait des tests d'effort, etc. Tout va bien. Enfin, hein, ça, pas, mais, et donc, je pense que si j'avais continué malheureusement sur le chemin que j'avais pris avec l'alcool, je ne serais pas à cet état-là en ce moment.
Ouais. Pour autant, c'est difficile à mesurer de savoir ce qui. Bon, tu peux pas savoir l'état dans lequel tu serais maintenant si tu es quand tu es à l'alcool. Mais tu ferais pas de sport. Enfin, comment tu vois les choses?
Après, bon, moi, j'avais fait, ça me tentait de reprendre même pendant que je courais, j'ai recouru, pendant que je faisais de la plongée, je recourais de temps en temps. Je n'étais pas rentré dans une dynamique à courir tout le temps, une fois de temps en
Ouais.
temps. Ok, quoi, je mettais les baskets et puis voilà. Après, quand j'ai, en 2009, quand j'ai pris la décision vraiment de courir, ne faire que ça, quasi, je parle au niveau activité, j'étais. C'est comme tu le disais, je ne sais pas si l'alcool m'a impacté, si c'est difficile à pouvoir dire ce que ça aurait pu faire ou pas faire. C'est très
Ouais.
délicat.
Tu peux pas le savoir en fait. C'est ça le truc, c'est
Non.
qu'on peut pas le savoir.
Non. Mais c'est comme telle chose, je la prends. Est-ce que ça va aller? Est-ce que si je ne l'avais pas pris, ça serait mieux? Si je la prends, c'est mieux, on ne sait pas. Puisque c'est toujours difficile. Mais moi, enfin, pour moi, il n'y aurait pas photo. C'est que je suis quand même mieux depuis que j'ai arrêté de boire, sur plein de choses, et à la fois, bien entendu, sur le physique, mais sur plein de choses, et puis sur le corps, etc.
Donc tu disais maintenant, donc tu t'entraînes, tu quoi? 5 fois par semaine, tu m'as dit, tu t'entraînes?
Oui.
Ouais, à peu près. Les gens, ils se rendent pas compte d'ailleurs. Ça reprend combien de kilomètres? Tu comptes en kilomètres? Tu comptes comment? Comment tu
Alors
gères?
après, tout dépendant le plan que je fais, Là, en ce moment, je dois être à 70 km à peu près, semaine, hein, sur 5 entraînements. Donc, en vérité, c'est pas la masse de kilomètres qui est important, hein. C'est surtout la qualité des séances qu'on peut faire. C'est ce que je dis. Donc, moi, je fais des séances de, bien entendu, comme beaucoup, de fractionnés, etc. Je fais du long et je fais des endurances, des séances de MA. Ben, Bruno pourra en parler plus que moi parce que c'est lui qui m'a enseigné tout ça. Donc, ouais, je fais ça. Alors, après, en fonction des objectifs, sur un 100 km, par exemple, pour Mio, je suis monté à 100 km semaine, quoi.
Ouais.
Sur le grand raid, j'ai dû monter à 110, 120 à peu près. Hein, puisque les sorties longues, elles vont être plus longues, bien entendu. Donc, ça va taper du 5h30, 6h, une fois par semaine. Donc, la paire la fin, hein, au début. Oui,
Non mais
non, mais des fois, voilà, il y a du progressif. Le corps, il est quand même, il y a une faculté, il est quand même, c'est une sacrée bécane. Et une faculté d'adaptation qui est incroyable. Et les gens, ils se disent, ouais, mais comment Patrick, il y a mon fils, je discutais encore avec mon gamin qui parlait à de ses copains, copines, que son papa, il faisait des 100 km. Ah bon, en courant. Ah bon, il s'arrête pas. Enfin bref, ça, c'est toujours surprenant pour ceux qui sont pas dedans. Et à partir du moment où on est un peu dedans, on se dit, ben voilà, si on met toutes les billes de notre côté, en tout cas, qu'on fait les entraînements en conséquence, puis derrière, on fait un respect, enfin au niveau nourriture, qu'on est un peu attentif et puis qu'on une hygiène de vie bien, ben derrière, on va y arriver. Et après, ben, il y a des autres éléments, comme on disait tout à l'heure, le mental, etc., que là, ben, tant qu'on n'a pas vécu les fameux, enfin c'est des faux murs, hein, mais les fameux problèmes où vraiment tout le mental nous pète là dans les mains, là, tant qu'on n'a pas vécu ça, c'est difficile d'en parler, quoi. Savoir comment. Moi, j'en ai connu trois, donc voilà.
Ah, là, tu m'intéresses. Ça se passe comment dans ces cas-là?
Alors moi, la première fois que j'ai fait vraiment ça m'est arrivé, c'est au Grand Raid du Golfe du Morbihan. La première fois que je l'ai fait, donc je partais pour les 75 km. Je ne sais plus quelle année j'ai fait ça, moi 2015, 2016, je ne me rappelle plus exactement. Et derrière, arrivé les deux tiers de course, hein. C'est comme le marathon, hein. C'est comme toutes les courses. On arrive aux deux tiers et paf, ça tombe sur le museau. Tu te dis, punaise, il te reste 50 km, pépère, mais tu as vu à la vitesse que tu cours là. On va mettre je sais pas combien de temps, tu vas mourir là. Et puis derrière, c'est un combat personnel, intérieur, entre dire, bah, faut que tu arrêtes, puis il faut que tu continues. Et puis bah, moi, j'ai arrêté. Et donc, bien entendu, quand j'en ai discuté à ceux qui me suivaient à ce moment-là en diète, etc., ils m'ont dit, bah, pourquoi tu t'es pas arrêté, tu n'as pas dormi, etc. Puis après, tu reprenais, tu mettais un coup de pied dans les fesses, tu te mettais un. Donc, une fois, il m'a dit maintenant, une fois que tu l'as connu, maintenant tu sauras que ça ne va plus t'arriver. Après, n'empêche que je l'ai vécu, mais je ne l'ai plus abandonné pour ça. J'ai revécu, hein, des moments très difficiles, très douloureux, et avec des limites, hein, à 100 km de Millau, j'ai eu un problème. Une grosse douleur, merci les kinés de Saint-Afrique là qui m'ont soigné et m'ont fait repartir. C'était ça 4-5 ans. Et là, j'étais arrivé à un seuil où j'étais à la limite d'arrêter, quoi. Mon suiveur m'a encouragé. Mon épouse, je l'ai eu au téléphone, qui m'a dit ah, non, tu vas pas arrêter, mince, c'est quoi que t'as? Ouais. Alors derrière, j'ai dit, bon, je vais quand même aller voir le kiné. Kiné m'a remis, m'a dit, bah. Puis ça y est, c'est bon, au bout d'une demi-heure qui m'a fait souffrir, jusqu'à larmes à l'œil presque. Il m'a dit, bah, vous pouvez repartir. Comme de fait, tu repartis. J'ai arrêté ouais, 3 quarts d'heure à Saint-Afrique et puis je suis reparti. Donc maintenant, je sais ce qui en est et je pense que le mental, il est forgé. Je ne dis pas que ça m'arrivera plus, mais en tout cas, je sais en tout cas comment le berner un petit peu, quoi. Essayer de faire en sorte que des grands champions, ils l'ont. Hein, je viens de lire un petit livre là, que quelqu'un que tu viens de citer vient de sortir. Et justement, il parle un peu d'un gros problème. Et après, moi, je différencie quand même l'effet mental et l'effet physique, hein, qu'on soit bien clair. Hein, à un moment donné, quand le corps, il ne veut plus, il ne veut plus. Hein, ça, c'est autre chose. Moi, ça m'est arrivé, le corps, il n'arrivait plus, j'avançais, mais je me traînais. Quelqu'un, il me doublait en marchant aisément. Mais le mental m'a dit d'y aller. Par contre, physiquement, j'étais au taquet, quoi. Dernier grand raid du Golfe du Morbihan, j'étais au taquet. Je ne pouvais plus avancer. J'étais vraiment vidé, vidé, vidé. Et ce n'est pas le mental qui m'a dit d'arrêter. C'est simplement physiquement, voilà, j'avançais plus, quoi. J'étais à 3 km heure, j'y arrivais plus, quoi.
Sur cet aspect-là, là, sur quand tu es dans cette moment difficile, là, dur, dans ces courses-là, tu penses à quoi en fait?
Alors, je pense qu'on a plein de pensées qui vont nous arriver. On va penser au sien, on va penser à la course, on va penser de se mettre des baffes dans la. De se mettre des baffes à l'intérieur en disant non, 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 c'est bon, on y va, on fonce, on va s'accrocher, on va se dire ben, ce qu'on va faire, on va chercher l'objectif qui va être de dire ben, je vais aller au prochain ravitaillement, je vais rattraper ce coureur ou cette coureuse-là, ou alors tiens, j'ai essayé de courir avec cette personne. Donc, quand on est dans des difficultés comme ça, au niveau mental, en tout cas pour moi, je ne dis pas que c'est la solution, c'est la panacée, mais ça va être ça, c'est d'aller jusqu'au prochain ravitaillement, après on verra, c'est de se dire, c'est de passer, si on est en train de trottiner, bah, dire je vais marcher, si on est en train de marcher, de dire bah, je vais marcher un peu plus vite, ou je vais courir, ou je vais... Voilà, mais c'est de s'accrocher à tout ce qu'il peut y avoir. Mais entendu, on avait pensé à notre famille, les biens, et puis c'est peut-être aussi l'occasion de leur prendre le téléphone, dire écoute, appeler sa femme, appeler sa femme ou ses enfants, dire écoute, là je suis dans. Ça va pas du tout, qu'est-ce qu'on fait? Ou le suiveur. Moi, je sais que l'accompagnateur, il est quand même, il a un sacré boulot à faire, c'est justement de nous mettre un coup de pied dans les fesses quand il y a besoin. Moi, je sais qu'il m'a aidé, par exemple, à chaque fois le suiveur, c'est toujours le même, qui me suit depuis mes 6 fois que j'ai fait les 100 km. Et à chaque fois, il arrive à me rebooster, à me donner un coup de pied. Et puis des fois, les copains-copines qui courent avec toi, quoi, tu rencontres, et qui te disent, ouais, attends, on va y aller, viens avec nous, etc.
Ouais, et c'est vrai hein, de le dire cet aspect-là. Et ce que tu cites là sur le coup du kidé qui te fait repartir, moi sur mon 24 heures, je l'ai enregistré en direct quand même, la séquence où je me suis récup qui me masse pendant 20-25 minutes. Et j'avais enregistré parce que j'y croyais pas, mais je crois qu'il m'a fait presque pleurer. Alors j'en rigolais tellement, mais ça faisait mal. Je dis, mais tu me fais mal et tout. Mais en fait, il m'a dit, mais les contractures, c'est le seul moyen de les faire partir, de la faire remonter, de la bouger, etc. Mais c'est vrai que sur Kilomètre 42, j'ai l'épisode en direct où j'ai enregistré les 20 minutes. Il y a 20 minutes de massage où j'ai tout enregistré en audio. Et je dis, mais tu me fais mal, etc. Mais par contre, c'est vrai, je lui ai dit après, je dis, mais tu m'as fait repartir. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, après 100 et quelques kilomètres, je repartais peut-être pas si facilement que ça. Et c'est vrai que il y a le mental qui joue, mais il y a le corps, musculairement,
Oui.
etc. Ça commence à tirer. Je remercie aussi d'avoir des lacets silicone, c'est qui m'évitait de me baisser pour mettre mes chaussures quand je changeais de chaussures, des trucs comme ça. Mais c'est vrai, on se rend pas. Mais après, finalement, enfin moi, j'en rigole maintenant, me dire, mais on est capable de faire des trucs on pense pas capable de le faire.
Oui, tout à fait. Les limites de notre corps, il est quand même assez impressionnant. Là, j'ai des. Quelqu'un que je connais qui vient de faire une course en Argentine, un truc de ouf de 450 bornes, des étapes de 45 km jour, je dis punaise, mais comment ils font quoi? Ils enchaînent des marathons tous les jours, avec du dénivelé, avec des températures, l'Argentine, c'est quand même pas la porte d'à côté, et en plus de ça, on sait très bien que c'est pas vraiment les mêmes taux d'humidité et puis les mêmes températures, et qui arrive à faire des choses. Et moi, je suis tenté par ce genre de choses. Il y a des choses qui me tentent, il y a la Transespagna des sujets qui me tentent très bien, mais après, bon, il y a les barrières horaires, je trouve que je suis plus dans les. C'est ça qui me met le pied sur le frein, moi, surtout. C'est une barrière horaire un peu trop rigoureuse qui fait que derrière, je sais que je vais avoir du mal, quoi. Parce que je me connais quand même, faut être. J'ai 65 ans quand même, donc la bécane, elle commence un peu à avoir un peu d'âge, et c'est toujours ça un peu qui m'interpelle. Là, je suis en train de regarder pour faire. Une course en Bretagne, là, qui s'appelle l'Ultra des Vagues, pour ceux qui connaissent. C'est le tour de Belle-Île-en-Mer. J'espère pouvoir m'inscrire, parce que c'est le truc de fou, les inscriptions. Donc, j'ai déjà fait 2, 3 fois, et j'aimerais bien le refaire. Là, ça fait un moment, 2016, je crois, la dernière fois, j'aimerais bien le refaire.
Ouais, un beau projet. Mais ce qui prouve d'ailleurs que tu arrives à faire ça, alors que tu le disais, hein, tu as eu t'étais alcoolique, etc. Donc ça veut dire que malgré ces périodes-là d'alcoolisme et tout, ton corps est reparti. Tu as réussi à reconstruire un corps qui est capable de faire ça en fait.
Oui, tout à fait. Après, c'est ça le truc, c'est qu'on a une faculté, on a un corps quand même, c'est une bécane qui est d'enfer. C'est comme notre cerveau, c'est comme plein de choses. Si on l'entretient, si on y fait ce qu'il faut, si derrière on a réussi à pousser. Moi, qu'à chaque fois qu'on me dit oh, bah, comment tu fais, bah, je dis bah, voilà, les gens qui veulent reprendre la course, par exemple, les conseils, on sait bien, mais je dis mais arrêtez de vous faire un truc de ouf, courez, marchez, comme à la sensation. Puis vous allez voir tout doucement, bah, votre sensation elle va aller de mieux en mieux, votre corps va s'habituer. Et puis après, vous serez surpris de courir pendant 20 minutes, après 40 minutes, après 1 heure. Puis après, bah, vous voulez faire un 10 km. Et puis après, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a 20 ans de ça, j'aurais jamais, enfin, un peu plus de 20 ans, j'aurais jamais pensé que j'allais faire un 100 bornes, ça c'est sûr. Moi, ce qui comptait, c'est de refaire un marathon, en tout cas, de me relancer dans les courses marathon. Et puis de faire un ultra, faire un petit peu un genre 60, 70, 80 km. 100 km de mio, j'y ai pensé il y a un moment, mais c'était en quelle année? 2011, je crois, de souvenir, ça doit être ça. 2011, 100 km de mio était dans ma tête, quoi. Là, je voulais le faire. Hein.
Pour ceux qui se posent la question, t'as mis combien de temps entre le moment où t'as repris la course et le moment où tu fais 5 km de Millau pour...
Alors moi, j'ai repris en 2009, de souvenir, Mio, ça va être 2013 ou 2014. Ouais. 5 ans, et puis entre-temps, ben, j'ai fait des marathons. Je dois être à 15 ou 16 marathons de souvenir. Ouais, 15 marathons de souvenir. Alors, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai un pote là, dans mon bled, là, il court, il est au 40e ou 40e marathon. Donc, voilà, comme quoi, il y a des gens. Moi, je connais des personnes qui ont fait les 100 km de Millau sans avoir fait de marathon.
Ouais.
Le challenge, c'est de faire cette personne-là pour ses 40 ans. Il voulait faire les 100 km de Millau. Il courait pas, hein, quasi. Hein. Il s'est mis à courir et il a fait les 100 km de Millau. Il a mis 18 heures. Il a fait les 100 km de Millau. 18h20, je crois, de souvenir. Donc, vous voyez, comme quoi, après, il y a le mental, un peu de préparation, une volonté. Je pense quand même, oui, ce qu'on a. Un historique de coureur, qu'on a fait des marathons, qu'on a fait un peu de course, je pense que ça peut qu'aider. On va quand même pas non plus pas se dire, voilà, le 100 km, c'est à la portée de tout le monde. Je dis que moi, je pense, en tout cas, personnellement, je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais faut-il encore s'en donner les moyens?
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir l'avoir. Je pense que c'est quand même, voilà. Alors, on me dit que non, moi, mais oh, je sais pas trop. Après, les limites, c'est les limites physiques qu'on pourrait avoir personnellement. Mais autrement, moi, pour moi, à partir du moment qu'on a ce tenaque et puis qu'on veut y aller, qu'on se met autour, qu'on met vraiment tout en place, et à la fois la préparation physique qui est vachement importante, que derrière on y met une diététique qui fasse en sorte qu'on fait les essais pour pouvoir bien s'approvisionner, parce que ça, c'est toujours le gros problème sur du long, de pouvoir trouver les bons ravitaillements, ce qu'il faut prendre ou pas prendre, hein, parce que chacun, voilà, réagit pas de la même façon. Il n'y a pas quelque chose d'unique. Hein. Je ne peux pas dire, bah, tiens, il faut faire comme ça va aller. Non, 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 ça, c'est faux. Et bah, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut y arriver. Ouais. Moi, j'y crois, en tout cas. J'y crois.
Ouais, et c'est un beau message. Et comme quoi, même, tu vois, en disant ce qu'on disait, hein, c'est que même en ayant été alcoolique, même en ayant ce problème, on parlait un peu de diabète, gestion du sucre, le pancréas qui est touché, etc. Et tout, bah, comme quoi, il y a 65 ans. Hein,
Oui.
parce qu'il y en a qui se croient foutus bien plus tôt que ça. Hein.
Ouais, alors, mais je suis surpris quand même. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a plu, moi, malheureusement, avec le passé, là, c'est que le Covid a fait qu'en tout cas, il y a des gens qui, d'un seul coup, sont venus nous rejoindre en course à pied. Alors, il y en a qui ont abandonné trop vite, mais il y en a, par contre, qui ont persisté, etc., qui ont continué. Et maintenant, qui sont coureurs, qui n'auraient jamais pensé faire ça, et qui se font des 5 km, des 10 km en courant, qui vont s'inscrire, qui vont faire le SMI, comme nous, il y a eu 15 jours à peu près, ouais, mi-octobre, celui de Reims, qui se doutaient pas qu'ils auraient pu le faire, et donc qui se sont mis à la course et qui ont pris une activité. Alors, il y en a d'autres d'activités, hein. Il y a le vélo, il y a tout ça, il y a la natation, etc. Mais c'est vrai que comme il y avait le Covid à faire trouver les jambes à certains, et donc c'est super, il y en a qui se sont lancés dans la marche, etc. Donc je pense qu'à tout âge, on peut y aller. Après, il faut faire quelque chose de progressif. Il faut y aller voilà, en s'écoutant. S'écoutant pas de trop, parce que des fois, il faut se mettre un coup de pied dans les fesses. Hein. Quand il pleut, bah, on y va. S'il fait froid, ben on va y aller aussi. Donc voilà, moi je m'entraîne. Moi je fais 5 fois la semaine, quelle que soit la météo. Hein. Donc, Alors, je cours et j'y vais, quoi.
Ouais.
Je suis sorti hier, il tombait, il y avait des belles roches, il n'y avait plus du vent, et j'y suis allé quand même, quoi. Après, voilà, il y a ça. Mais bon, après, on a tellement de plaisir qu'on arrive, qu'on va reprendre la douche, qu'on se sent bien. Franchement, c'est génial, quoi. Et donc, comme de fait, c'est vrai que quand j'étais dans ma période d'alcool, ben, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ça. Et je trouve que d'avoir arrêté et puis derrière faire une activité, ben, je suis très, très. Je suis assez content de moi, je suis assez content. Et puis je pense que j'ai mon entourage qui sont assez fiers du Patrick, ce qu'il a pu faire, ce qu'il fait. Et puis ça en étonne encore plus un. Mes enfants sont assez fiers de moi et ma femme aussi. Donc j'en suis très, très content. Et je pense que ça, il n'y a pas à dire. Le fait d'avoir arrêté l'alcool et puis en même temps la course à pied, ça forge. Il n'y a pas photo.
Alors, tu vois, j'avais une dernière question, c'est de dire, est-ce que tu vois un parallèle? Alors, c'est difficile de faire un parallèle comme ça, mais entre arrêter l'alcool, la démarche d'arrêter l'alcool et la démarche de commencer la course ou de se lancer dans l'ultra, tu vois, est-ce que tu vois des similitudes
Ouais,
dans ce parcours?
alors l'alcool, le fait d'arrêter, bah, faut une volonté. Courir, il faut de la volonté à un moment donné. De se dire, est-ce que. En plus de ça, c'est que je pense qu'à partir du moment où on fait une activité, c'est comme celui qui va arrêter de fumer. Je pense qu'en faisant une activité parallèle, bah, derrière, ça va aider. D'accord? On va retrouver à un moment donné, ça va être un peu difficile, mais on va retrouver après un moment de plaisir parce que lorsqu'on finit de lui avoir couru, on a une sensation quand même de bien-être, hein, on le sait, hein, c'est hormonal, etc. Donc, eh ben, ce qu'on avait peut-être avec l'alcool, parce qu'arrivé à un moment, ben, on était bien, mais eh ben là, en plus, c'est plus sain, notre corps, il va mieux, puis derrière, on va avoir tout de suite l'impact en se regardant dans un miroir, on va se sentir mieux, notre image qu'elle va refléter, on va être quand même plus fier de soi, et puis, bien entendu, physiquement, on va tout doucement, on va fondre, et puis c'est un des meilleurs régimes, la course à pied. Hein. Bon, il y a d'autres choses à faire avec, mais autrement, c'est un des meilleurs régimes.
Ouais, alors je parle pas de poids, mais comme tu m'as dit, t'as perdu du poids entre le moment où t'es alcoolique et le maintenant?
Alors, comme moi, ça s'est fait en même temps que la course à pied. Donc, j'avais commencé la course à pied avant d'un. Ah non, moi, j'ai arrêté en 2003. Donc, j'ai pris la course à pied après. J'ai fondu un tout petit peu avant de reprendre, et puis la course à pied, ça a été indiscutable, j'ai fondu. Mais moi, je note pas régulièrement, mais je le fais une fois de temps en temps pour voir un peu où j'en suis, surtout dans les compétitions, voir ce que je suis un petit peu avant. Et c'est sûr que quand j'ai arrêté l'alcool, ça, j'ai fondu, c'est sûr.
Ouais.
Par contre, il y a eu tout un engrenage derrière qui a fait que, comme j'avais plus le sucre de l'alcool, il fallait que je compense bah, d'autres sucres. Je mangeais des rochers, je ne donnerai pas le nom pour ne pas faire trop de pub, les fameux rochers pralinés, là, donc j'en
Ouais.
mangeais, je buvais du fameux coca, et à un moment donné, ma femme, elle me dit, ah, mais t'as vu, tu prends du rocher, tu prends du coca, etc. J'étais voir mon docteur, il m'a dit, ouais, c'est normal, c'est une des causes principales, c'est le fait d'avoir arrêté l'alcool, vous avez un manque de sucre derrière le
Ouais.
corps. Et donc derrière, il faut le remplacer, donc c'est pour ça. Donc j'ai fait, comme je suis une tête de mule, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté les chocolats, la façon que je le prenais. Maintenant, j'en prends de temps en temps, attention, hein, j'aime bien moi un petit carré de chocolat après le café et autres. C'est toujours agréable.
Ouais, mais je suis d'accord. Effectivement, puis en plus, on rentre dans la période de Noël et tout, là, on a tous les
Oui.
chocolats qui nous tentent, etc., y compris les fameux petits rochers.
Ouais.
Ouais, mais il y a toujours une boîte qui traîne à Noël à la maison, hein, tu sais. Alors,
Ouais, tout
franchement,
à fait.
je ne vais pas jeter la pierre. Et je suis aussi d'accord avec le petit carré de chocolat après le café et tout. D'ailleurs, on va parler tu vois, de ce truc-là. Donc, là-dessus, on est tous raccord. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Parce que c'est intéressant, tu vois. Parce que c'est vrai, quand on cherchait un peu sur le sujet, c'est un sujet qui est culturel, l'alcool, c'est vrai, on le disait, hein, et qui n'est pas facile, où on ne se rend pas compte de l'engrenage. Mais ce qui est bien aussi, c'est de se rendre compte qu'on peut en sortir et que derrière, ben, comme tu disais, ton corps, ben, tu as réussi à le faire repartir, tu as réussi à faire plein de trucs, tu as des défis en tête. Ben déjà, il y en a un qui arrive dans pas longtemps. Alors, je sais pas à quel moment on va diffuser cet épisode, parce que là, on est le 6 novembre. Donc, ça veut dire,
Dans un
c'est
mois.
quand? Dans un mois, hein, tu vois. Donc,
Dans
on
un
va
mois, ouais,
diffuser.
c'est le 4 ou le 5 décembre, moi, de souvenir,
Ouais,
peut-être.
dans ces cas-là. Bon, j'espère que le vent sera terminé, hein, que tu auras du beau temps.
Oui,
Ça reste la
franchement.
Bretagne, quoi. Non, je vais pas m'attirer les foudres des Bretons, mais quand même. On sait jamais, hein. Moi, et tu sais que j'ai eu chaud, là, venir, sûrement, quand j'ai fait la Mister en octobre, c'était plus tôt. Mais je crois qu'il y a une année où il avait fait très froid, hein, si je me trompe pas, hein, sur ce 24 heures-là. En tout cas, ce qui montre, hein, que, on est capable, hein, de repartir, de faire des choses, d'évoluer, de changer. Tu as parlé de volonté, tu as parlé du parcours et tout. Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle course, des beaux projets. Donc, tu nous as dit un petit peu, tu as un truc qui te fait rêver quand même, là. Tu te dis, tu commences à parler de certaines courses, là, tu as un truc qui te ferait rêver.
Ouais, dans les courses, la Transespagna sera quelque chose de très intéressant, mais bon, c'est quand même des courses de fou, et là, je ne sais pas si je serai en mesure de le faire. Après, moi, je pense qu'en dans l'Hexagone, on a quand même de quoi faire au niveau de challenge. Il y a l'UTMB aussi sur lequel, voilà, ça me tenterait plus ou moins, mais bon, la montagne me fait un petit peu peur d'une certaine façon. Et puis, voilà, et je sais que maintenant, ça a un peu durci au niveau des points, donc ça va être plus difficile maintenant. Mais pour le moment, je les avais, je le sais, quoi. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui compte, enfin, moi, j'ai pas de, je suis, au niveau alcoolémie, etc., moi, j'ai toujours été assez direct, assez franc là-dessus. Et justement, ça a permis des fois à certaines personnes de venir discuter avec moi. Et moi, je le fais en toute franchise. J'ai pas honte, c'est mon histoire, c'est mon passé, c'est comme ça. Derrière, moi, j'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir m'en sortir. Et tous ceux qui seraient dans un engrenage similaire, qui viendraient à s'amuser, enfin, qui voudraient écouter le podcast qu'on est en train de faire, eh ben, il faut qu'ils y aillent, qu'ils soient aidés et qu'ils pensent à leurs proches aussi, parce que ça, c'est aussi important. Les proches, ils souffrent beaucoup. Voilà.
Eh bien, écoute, en tout cas, Patrick, merci beaucoup pour ton témoignage. Il y a un endroit où on peut te contacter. Enfin, tu es sur les réseaux sociaux quelque part ou pour te suivre,
Alors,
t'encourager
moi,
tu...
j'utilise Facebook, hein, principalement. Bon, apparemment, c'est le site des vieux, donc je ne sais pas si c'est vrai. J'utilise ça principalement. J'ai un peu Instagram, mais je suis moins doué là-dessus. Facebook, bon, c'est parce qu'on se retrouve pas mal de copains-copines en course à pied. On se retrouve, voilà, on a fait 100 km de Millau, on était toute une petite équipe, on s'est retrouvés à 4, 5, on s'est retrouvés tous ensemble, on a pu faire la course ensemble, c'était super génial. Donc voilà, c'est surtout sur ce site-là où moi que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est course à pied.
Ok, eh bien écoute, sur ce, je te remercie beaucoup en tout cas pour le temps passé avec nous, pour ce témoignage, qui est important d'en parler. C'est un sujet qui est vraiment important d'en parler. Et puis on va continuer à explorer un petit peu la thématique, hein, que je disais, entre les invités, etc. On va parler un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait partie, hein, de thématique, ça fait partie des questions qu'on peut avoir, hein, quel est l'impact de l'alcool sur la course, etc. Là, on était sur un sujet sur vraiment montrer, hein, que bah, on peut sortir de l'alcoolisme et puis se relancer dans le sport et faire des courses, faire des ultras et tout, des choses qui me semblent incroyables et impossibles. Mais moi, tu sais, mon parcours, moi, c'était la perte de poids. Donc, je pensais pas, quand j'ai perdu 30 kilos, je pourrais courir un jour 100 km. C'était même pas imaginable pour moi. Je savais même pas que le 24 heures existait, tu vois. Donc, c'était encore plus net. Je savais même pas que ce genre de truc existait, qu'il y avait des gens pour faire ça. Donc, ça montre qu'on est capable de faire des belles choses. En tout cas, merci beaucoup, Patrick, pour ton témoignage. Et puis, nous, écoutez, bah, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Vous avez compris un petit peu les thématiques, les sujets, des nouveaux invités. Et puis, on va continuer à explorer ce monde, sport, nutrition et tous les sujets qui vont autour de tout ça. Merci beaucoup, Patrick.
Hey, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.